vous expliquer tout à l'heure. À bientôt.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans l'Amérique et vous, Eric Manilakis avec vous à la présentation. Le 19 juin, Juneteenth marque un moment pivot dans l'histoire américaine où l'esclavage a pris fin dans les États confédérés, symbolisant la liberté longtemps attendue pour les Africains américains. Aujourd'hui, cette journée emblématique se trouve au cœur de la campagne présidentielle américaine, devenant une occasion cruciale pour les candidats de courtiser l'électorat noir. Tant Joe Biden que Donald Trump cherchent à capter l'attention et le soutien des électeurs noirs à travers des discours et des initiatives soigneusement orchestrées. Cette année, plus que jamais, Juneteenth devient une opportunité stratégique pour mobiliser cet électorat clé, offrant une tribune pour discuter des enjeux critiques comme les droits civiques, l'égalité raciale, et les perspectives pour la communauté noire aux États-Unis. Nous en parlons dans un instant avec nos invités, Calvin Duck, directeur de RC Communications, un centre de réflexion basé ici à Washington DC, est avec moi en studio. Calvin, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Notre deuxième invité, Marlene Seffolk, professeure à Howard University, ici à Washington DC. Elle est en ligne avec nous. Bonsoir, Marlene.
Et bonsoir.
Abou Konté, professeur de français à l'Université du Minnesota, est en ligne avec nous. Konté, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Georges et Léonard Sagno assurent la réalisation de cette émission. Je vous le disais donc, en cette journée commémorative de Juneteenth, les candidats à la présidence américaine, Joe Biden et Donald Trump, se sont adressés aux électeurs noirs. Avant de commencer notre débat, je voudrais vous proposer ce reportage réalisé par Scott Stuntz, correspondant de la VOA, et le récit est de Gabi Dorsil.
Le président Biden a organisé un concert à la Maison-Blanche avant le début du mois de juin.
Notre histoire ne concerne pas seulement le passé, mais aussi notre présent et notre avenir. Il s'agit de savoir si cet avenir est celui de chacun d'entre nous et pas seulement de certains d'entre nous.
Pour Joe Biden, ses adversaires politiques tentent de réécrire l'histoire.
Il y a de vieux fantômes dans de nouveaux vêtements qui essaient de nous ramener en arrière. Eh bien, il y en a qui vous privent de vos libertés, qui font qu'il est plus difficile pour les Noirs de voter ou de voir leur vote pris en compte. Ils ferment les portes des opportunités, ils s'attaquent aux valeurs de la diversité, de l'équité et de l'inclusion.
La campagne de Donald Trump a lancé samedi une coalition Black Americans for Trump, l'ancien président allant à la rencontre des électeurs noirs dans une église du Michigan.
C'est un domaine très important pour nous. Nous avons fait plus pour, et je le dis fièrement, plus pour la population noire que n'importe quel président depuis Abraham Lincoln. C'est une grande déclaration.
Selon Trump, les électeurs noirs perdent leur emploi au profit de ce qu'il appelle des millions d'étrangers en situation irrégulière.
Chaque État est un État frontalier. Vous l'avez entendu. Mais ils viennent dans votre communauté et ils prennent votre travail. Ils affectent les Afro-Américains, puis les Hispano-Américains, plus que tout autre groupe.
Les communautés noires souffrent de l'aggravation de la criminalité sous Biden, dit Trump.
La criminalité est la plus endémique ici et dans les communautés afro-américaines. Et de plus en plus de gens me voient et ils me disent, monsieur, nous voulons être protégés. Nous voulons que la police nous protège. Nous ne voulons pas être volés, agressés, battus ou tués parce que nous voulons traverser la rue pour acheter une miche de pain.
Les données du FBI montrent que les crimes violents sont en baisse aux États-Unis, dans les grandes villes comme dans les petites. Joe Biden affirme que les électeurs noirs l'ont fait élire il y a 4 ans et qu'il a de nouveaux besoins de leur aide.
Parce que les Noirs américains ont voté, Kamala et moi sommes présidents et vice-présidents des États-Unis grâce à vous. Ce n'est pas une hyperbole, parce que vous avez voté. Donald Trump est un ancien président vaincu. Et avec votre vote en 2024, nous allons faire de Donald Trump un perdant à nouveau.
Il y a 4 ans, seuls 8% des électeurs noirs avaient choisi Trump. Les sondages réalisés par Pew Research au cours de cette campagne montrent que 18% des électeurs noirs soutiennent Trump. Un bond qui pourrait faire la différence dans les scrutins serrés dans des États en pleine mutation comme le Michigan.
Voilà, donc pour planter le décor, Calvin Dack, je vais commencer avec vous. Comment voyez-vous l'incorporation de Juneteenth dans la campagne présidentielle américaine cette année?
Oui, je crois que c'est très pertinent parce que dans cette élection, ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que les résultats vont être très serrés. Alors, tous les groupes des électeurs comptent, et surtout avec les Noirs, parce que d'après quelques sondages, il y a peut-être un mouvement de soutien de la communauté noire vers Donald Trump. On ne sait pas si ça c'est vrai ou non, mais même si c'est juste un petit mouvement, ça peut changer le résultat de l'élection. Alors, aussi parce qu'il y a des mouvements actifs pour revenir sur le progrès qu'on a fait pour les droits civiques. Pour cette raison, c'est un moment très pertinent dans l'élection et aussi pour la lutte pour les droits civiques.
Abou, vous nous entendez. Selon vous, est-ce que cela reflète une prise de conscience accrue de la part de candidats concernant les questions importantes pour la communauté noire?
Déjà l'idée de se servir de la célébration de Juneteenth pour inciter les jeunes à agir, à participer davantage aux élections et comment les mobiliser, les encourager au volontariat, à la formation civique et politique du pays. Donc tout doit passer par, à mon avis, l'éducation. Il faut avant tout qu'ils apprennent ces jeunes-là leur histoire et pas seulement l'histoire africaine-américaine, d'ailleurs, mais aussi celle de leurs ancêtres africains. Il faut que ces jeunes étudient l'histoire de l'Afrique noire, les empires, Ghana, Mali, Songhai et autres. Alors, si vous avez constaté, parmi les plus grands militants noirs figurent les intellectuels qui se sont intéressés à l'Afrique, à connaître l'Afrique. À mon avis, c'est une condition sine qua non pour le développement des Noirs aux États-Unis. Donc, il faut une recherche et une reconquête de son identité africaine, une prise de conscience de cette réalité culturelle. Maintenant, une fois qu'on est éduqué sur ce passé, on peut passer à la réalité économique, aux stratégies de développement, aux investissements. Alors, la question est de savoir comment les hommes politiques pourront se servir avantageusement de cette occasion pour mener à bien leur campagne et ainsi faire avancer leur programme. Alors, il ne faut pas attendre à la dernière minute pour ces candidats-là, pour se présenter et dire « Coucou, nous voilà ». Donc, il a fallu d'abord maintenir un contact permanent avec cette jeunesse noire, se mettre à son écoute et pour œuvrer à la solution de leurs problèmes. Quelques affirmative action, etc., equal voting rights, etc.
Oui. Marlene Seyfocle, pensez-vous que Juneteenth représente une opportunité importante pour mobiliser l'électorat noir aux États-Unis?
Tout à fait. Juneteenth représente une opportunité vraiment extraordinaire. Juneteenth, d'abord, le mot, c'est une combinaison de June et de 19, c'est-à-dire Juneteenth. Et Juneteenth, le 19 juin, c'est le jour où les Noirs américains du Texas, à Galveston, ont su qu'ils étaient émancipés. Au départ, ça se passe en 1865. En 1863, il y a eu déjà, en janvier de 1863, le décret de l'émancipation des Noirs. Toutefois, les Noirs ne le savaient pas à Galveston, au Texas. Et donc, quand ils ont appris cette nouvelle, à ce jour-là, c'était le jour où tous les Noirs, on considère que c'est le jour où tous les Noirs ont été émancipés. Alors, les candidats, évidemment, vont utiliser la journée de Juneteenth pour se positionner. Dans ce cas-là, le président Biden est mieux positionné.
Marlene Seyfocle, oui.
Oui, le président Biden est mieux positionné.
Oui, je vous ai perdu il y a quelques instants, mais il y a aussi le président Trump qui gagne dans les sondages de plus en plus.
Il ne gagne pas vraiment dans les sondages chez les Noirs américains, parce que les Noirs américains savent exactement son passé vis-à-vis des Noirs américains. On se souviendra de la période de temps où il ne louait pas aux Noirs dans ses bâtiments, les bâtiments Trump étaient interdits d'accès aux Noirs. Les Noirs américains se souviennent aussi des 5 jeunes qui ont été inculpés et qui ont été innocentés par la suite, mais qui ont entre-temps passé quand même 10 ans de prison. Trump a beaucoup à voir avec leur incarcération. Pourquoi ? Parce qu'il avait mis dans le New York Times à l'époque toute une propagande d'une page pour justement les faire inculper. Et ça a pesé beaucoup dans leur incarcération, dans leur inculpation et leur incarcération. Dans son cabinet, durant sa présidence, il y avait très peu de Noirs.
Calvin, quand on regarde les sondages qui montent au niveau dans les soutiens envers Trump, est-ce qu'on peut penser que les enjeux aujourd'hui sont autres que ce que Marlene Seifel était en train d'expliquer?
Oui, je crois qu'avec une partie de la population noire, comme tous les électeurs, l'économie, c'est une priorité. Et je suis sûr qu'il y a des électeurs qui pensent que même avec le passé de Trump, s'ils croient que l'économie était mieux pendant le mandat de Trump, peut-être ils méritent une deuxième chance. Mais je crois aussi que ce qui est évident, même quand la campagne de Trump essaie de encourager, de mobiliser la communauté noire, c'est une caricature. Avec les sneakers et avec les rappeurs, il dit que maintenant la communauté noire, nous sommes plus proches de lui à cause de ses problèmes juridiques, tous les stéréotypes qu'on a. Et je crois que c'est très transparent pour la majorité des électeurs noirs. Alors pour ça, je crois pas qu'il va gagner beaucoup plus de soutien de leur part pour ces élections.
Alors, les différences dans les approches de Joe Biden et Donald Trump vis-à-vis de Juneteenth et de leur discours envers les électeurs noirs montrent des perspectives contrastées. Marlene Seifel, comment cela pourrait-il façonner les stratégies de campagne des deux candidats en vue des élections à venir? Rien n'est gagné, ni pour l'autre.
Oui, alors rien n'est gagné ni pour l'un ni pour l'autre, mais il faut quand même que la campagne de Biden puisse mettre en exergue les progrès accomplis au sein de la communauté noire américaine, au sein de la communauté africaine-américaine. Il y a quand même énormément de progrès accomplis, tant sur le plan de la santé que sur le plan de l'éducation. On se souviendra que les universités noires américaines ont fait quand même un bond sous Biden et ont obtenu beaucoup plus de soutien économique, financier sous Biden. Donc il y a toutes ces choses qui doivent être prises en compte.
Soulignons que les deux candidats continuent de déclarer certaines, des politiques qu'ils vont mener pour améliorer, la vie de cette communauté. Et Trump qui a promis quelque chose de très important aux Africains américains, n'est-ce pas, Calvin?
Oui, le premier message, c'est l'économie, parce qu'il a dit que si l'économie est mieux pour tous les Américains, c'est aussi le cas pour les Noirs africains. Mais aussi, je trouve que ça intéressant. La première fois que j'ai entendu Trump avec le message que le problème avec l'immigration touche notre communauté un peu plus fort. Il dit qu'avec le crime et avec toutes les choses que l'immigration clandestine entraîne dans nos communautés, ça, le peuple noir souffre. Mais je crois que le problème avec ça, c'est dans le même discours, il dit que dans le sang des Américains, nous avons des immigrés de l'Afrique, il a dit, que c'est pas bon pour l'avenir de l'Amérique. Alors je crois que l'hypocrisie et le conflit entre ces deux messages, c'est très transparent.
Abou, comment percevez-vous l'importance de Juneteenth comme jour férié national aux États-Unis, notamment dans le contexte actuel de lutte pour les droits civils et l'égalité raciale. Vous vous trouvez là où l'histoire de George Floyd s'est passée?
Oui, justement. Moi, je trouve que le fait d'avoir proclamé Juneteenth comme une fête nationale, n'oublions pas que c'était fêté au niveau du Texas, ou en tout cas au niveau étatique. Le fait de l'avoir, pour Biden, de l'avoir fait en 2021, d'avoir aussi saisi l'opportunité essayer de renforcer un peu les droits civiques vis-à-vis de la police. Alors, c'était jusque-là qu'une fête, nous l'avons dit depuis 1865 aux États-Unis, cela pourrait certes indiquer que Biden possède un léger avantage par rapport à Trump, en ce sens qu'il a rendu national donc cette fête. Mais n'oublions pas que beaucoup de noirs conservateurs aussi, hommes d'affaires, sont du côté de Trump. Les sondages, je pense, peuvent l'indiquer, mais je crois que c'est une opportunité pour Biden, déjà le fait d'avoir ramené cette fête à qui était étatique à une fête nationale. Donc ça, c'est déjà un avantage pour lui, à mon avis.
Vous suivez donc l'Amérique, vous. Nous parlons de la place que Juneteenth prend dans cette campagne de la présidentielle américaine. Marlene Sefocle, historiquement, comment Juneteenth a-t-il été utilisé ou ignoré en tant que thème électoral?
Alors, auparavant, le Juneteenth s'était ignoré comme thème électoral pendant des années. Et depuis quelque temps, depuis, je dirais, peut-être 10 ans, il est utilisé pour renforcer certaines campagnes. Et aussi, ceci est dû à l'activisme de certaines personnes, et on pense en particulier à Mme Opal Lee, est une grand-mère maintenant elle a près de 90 ans, enfin elle a plus de 90 ans, et elle a entamé une marche depuis Galveston au Texas jusqu'à Washington D.C. pour mettre en exergue Juneteenth et l'importance de Juneteenth pour la nation. Et donc c'est ça, il faut vraiment souligner cela, que ça a été vraiment un moment très important. Et donc depuis, les politiciens, certains politiciens surtout l'ont soutenu et utilisent évidemment cela comme faisant partie de leur campagne.
Calvin, si vous essayez d'analyser l'impact historique de Juneteenth comme symbole de la fin de l'esclavage, quand vous réfléchissez sur la manière dont cette histoire continue d'influencer les luttes pour l'égalité et la justice raciale, qu'est-ce que vous constatez?
Oui, je crois que Chesur Ferrier, c'est beaucoup plus loin que le symbolique. Et je cite un exemple, la décision récente de la Cour suprême contre la discrimination positive, le affirmative action pour les universités. L'exemple, c'est que mon université, Duke University à Caroline du Nord, quand mes parents ont terminé leurs études secondaires, c'était interdit aux étudiants noirs. Alors, c'est juste dans une génération, ça a changé. Et maintenant, le programme de bourse qu'ils ont pour soutenir et maintenir les étudiants noirs, c'était annulé à cause de cette décision. Alors, dans une génération, ils ont créé un programme pour adresser les problèmes du passé. Et maintenant, ils ont créé des autres parce que maintenant, la discrimination positive, c'est illégal pour les universités. Alors, ça, c'est le problème pour moi qu'il reste beaucoup à faire et que le Juneteenth, c'est aussi un rappel qu'il faut lutter. C'est pas juste un jour férié.
Marlene, est-ce que les célébrations et les discours politiques autour de cette date historique peuvent-ils influencer le vote des électeurs en général?
Alors, évidemment, ce ne sera pas seulement la journée de Juneteenth qui va influencer les électeurs. C'est tout un concours de circonstances. Les électeurs vont se souvenir également des 4 années passées sous la présidence de Trump. Et sous la présidence de Trump, ces 4 années étaient plutôt des années nocives et néfastes. Et on se souvient que c'était la période de Covid. C'était une période où le Covid avait été très mal géré, où les gens étaient vraiment dans un état d'expectative et ne savaient pas exactement ce qui allait se passer. Et on leur fournissait des informations qui étaient des informations erronées. Par exemple, on leur disait qu'il fallait utiliser du Javel ou quelque chose de ce genre pour pouvoir survivre au Covid. Donc, des 4 années de Trump, on ne garde pas vraiment souvenir agréable.
Il y a donc l'augmentation du soutien des électeurs noirs à Donald Trump depuis 4 ans. Donc Trump qui gagne sa cote de popularité auprès de cet électorat. Est-ce que vous pensez que cette évolution, comment vous analysez cette évolution et quelles implications cela pourrait-il avoir sur les stratégies politiques et sociales dans les années à venir, en particulier dans les États pivots comme le Michigan? En une minute.
Moi, je trouve que justement, il faudra que les organisations de droit civil et les grandes associations noires, qu'elles continuent toujours de mener cet effort de sensibilisation, de militantisme. Il ne faudrait pas qu'il y ait des périodes de latence, comme par exemple on l'a vu dans les années. 1900 et 1960, il ne s'est rien passé. Pourtant, c'est une fête qui est commémorée chaque année. Là que Biden a donné l'occasion donc aux Noirs de pouvoir fêter au plan national, je trouve que c'est là que le mouvement doit se passer dans les deux sens, que les politiciens communique aux jeunes et que les jeunes aussi fassent l'effort d'apprendre leur histoire, l'histoire du passé, pour davantage plus engagés.
Oui, Calvin, en quelques secondes, quel rôle joue la politique dans la commémoration et la reconnaissance de Juneteenth comme levier pour le changement et comment la société américaine peut progresser vers une réconciliation et une équité plus profonde pour toutes ces communautés?
Je crois que le plus important, c'est qu'on a des fêtes avec des chanteurs, comme à la Maison Blanche, et ça, c'est bien pour fêter le jour, mais tous les partis politiques, tous les candidats, y compris le président, doit avoir les politiques et les propositions pour l'avenir, pour changer la situation qui a créé la nécessité pour le Juneteenth.
Mmh. Marlene, la même question, quel rôle joue la politique dans la commémoration et la reconnaissance de Juneteenth comme levier pour le changement et comment la société américaine, dans sa globalité, dans sa diversité, peut progresser vers une réconciliation et une équité plus profonde pour toutes ces communautés?
Alors, je dirais comme Calvin qu'il faut, ce n'est pas seulement les festivités, comme les festivités qu'il y a eu à la Maison Blanche avec des chanteurs célèbres qui feront un changement. Je pense que ce qui fera le changement, ce seront des politiques vraiment très pratiques pour pouvoir changer la vie, pour pouvoir améliorer le sort des Noirs américains, l'avancement des Noirs américains. Par exemple, il y a toujours, les Noirs américains ont toujours sont toujours face à la discrimination quand il s'agit, par exemple, de demander des prêts auprès des banques. Ça, c'est simplement un exemple. Dans notre communauté, nous essuyons à peu près 71% de refus de prêts des banques, alors que la communauté blanche américaine, son taux de refus auprès des banques n'est que de 12%. Donc ça, c'est une question vraiment très sensible sur laquelle il faut se pencher et pour laquelle il faudrait mettre en place des mécanismes pour pouvoir changer cela. Je pourrais donner énormément d'autres exemples.
Merci beaucoup. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette édition de l'Amérique et vous, Marlene Sefocle. Merci beaucoup, Calvin Dirk et Abou Conté. Merci également à Georges et Léonard Sagno à assurer la réalisation et Eric Manila Kiza à faciliter les discussions. Merci également à vous tous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Excellent week-end à vous tous et à la prochaine.